LSD, la série documentaire. Un podcast France Culture.
Égalité, ça veut dire qu'on a la même taille.
Les enfants peuvent-ils parler ?
En fait, il y a une course.
Une série documentaire de Clément Salzar et Anne Fleury.
Il y a deux qui ont perdu.
Deuxième épisode.
Qui sont arrivés en même temps.
Entrer dans le rang.
Et ils se battent pour dire que lui il a gagné, lui il a gagné. C'est ça l'égalité. On a la même chose. Qu'on a pareil de légumes.
Ok. Et je vous ai demandé déjà à vous à quoi ça sert la justice, à quoi ça sert l'école. Irène.
Ça sert à apprendre à lire, à écrire et à compter.
Et à être intelligent pour quand on est grand.
À s'aider et à travailler. Et à s'aimer. Et à se faire des copains.
Ou tout seul.
C'est Clémence ?
Ouais, c'est moi, Mia. Merci.
La porte est ouverte.
Salut, mère.
Je savais pas que t'étais déjà
rentrée, Naïlou.
Eva.
Coucou,
petite, j'étais ce qu'on appelle un tomboy. Un garçon manqué, en mauvais français. À la différence des autres petites filles, je refusais qu'on me coiffe et ma mère cédait. Les poupées et les dinettes éveillaient en moi des pulsions destructrices et je honnissais les robes ou toute coquetterie. Je courais vite, longtemps, je tenais les garçons en respect. Mon chrono, comme on dit, forçait l'admiration de mes pères. C'était pas si commun, une petite fille mi-souillon, mi-wannabe Marie-Josée Pérec. Mais j'ai le souvenir d'une grande liberté, peu entravée.
Il y a un petit sapin, il est minuscule qu'on... Qui me dépasse même pas.
Et il y a les cadeaux.
Je trouve
que par terre.
Où sont les cadeaux?
Là.
Bah ouvre.
Bah non, c'est pas Noël.
C'est même pas des vrais cadeaux.
Bah si, c'est juste que c'est une boîte de chaussures.
Comme au Père Noël.
Ah.
À l'adolescence, au collège, je me métamorphose. Je fais bien encore quelques crosses dans ma campagne, mais le temps est surtout à l'apprentissage heurté de ce que signifie être une fille. Fait de redoutables classements de beauté, de baskets soudainement compensées, de sourcils maxi-épilés et d'effractions dans l'enfance commises par des hommes plus âgés. Je crains le regard masculin et la valeur qu'il daigne me donner. J'ai tu, oublié, écrasé le panache du petit tomboy. Je romantise sans doute ma petite enfance, comme un territoire enchanté, subversif presque, un monde d'avant les carcans. Celui que la cinéaste Céline Sciamma nomme poétiquement l'androgyna de l'enfance. Aujourd'hui, je me demande, peut-il y avoir un vécu et un point de vue enfantin sur le monde, inconscient de l'ordre social et en quelque sorte émancipateur? Comment l'école, la famille, les camarades peut-être, nous inculquent les normes culturelles et sociales? Et puis, comment on se rebelle? À mesure que je recouvre la mémoire et que je me documente, je comprends que si territoire enchanté il dut être exigu.
Toi, les rois, tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît.
Est-ce que tu sais ce que c'est, Naël, ce que je tiens dans les mains?
Non.
C'est un micro.
Hein?
C'est un micro, et ça veut dire que là, je suis en train d'enregistrer les voix.
Quelle voix?
Bah là, la tienne, par exemple.
Ah.
Et t'as quel âge, Tonel?
6 ans et demi.
T'es née en quelle année, alors?
Avril 2017. Okay. Quel cadeau que je t'ai dit.
T'aimes bien, toi, l'école?
Oui. Comme ça, ça m'apprend à lire en CP. Et je peux jouer un tout petit peu en CP. En CM2, je crois pas qu'on peut jouer.
Mais tu sais pas encore?
Oui. Ma soeur, elle est en 6e. Elle a 11 ans. Une autre question?
Je réfléchis à partir de ce que tu me dis. Et les enfants, ils ont des droits?
Pas trop. Ils n'ont pas le droit de faire des bêtises. Ils n'ont pas le droit de... pas écouter les adultes. Et le truc qu'ils veulent pas, c'est pas de perdre des points. En plus, on peut perdre moins 3.
Comment ça, moins 3?
Dans mon école.
Ah oui.
Je suis en CP. Oui. En 6e, en 5e, en 4e, en 3e, on a, à la place d'avoir des points comme moi, on a des bonnes notes ou des mauvaises. Et ce qui est pas bon pour la maîtresse où on fait trop de bêtises, c'est gêneur.
Gêneur.
En gêneur, on peut même pas aller en sortie.
Tu vas l'imprimer à toutes les radios?
Non, juste pour la radio pour laquelle je travaille. Et tu me dis ce que tu veux et s'il y a des choses que tu veux pas...
Je veux plus d'informations, moi.
Tu veux plus d'informations?
Mais non, je dis plus.
Des informations sur quoi?
Sur l'école. Le projet de la mère et de l'école. Et de la maison.
Alors, c'est quoi la mer?
La mer, c'est où il y a de l'eau. Et ça, un début, mais pas une fin.
Et pourquoi tu penses à ça?
Ça me fait penser au sable. J'aime bien faire des châteaux de sable. Des fois, j'en fais pas. Et des fois, je fais un petit trou où l'eau, elle peut venir. Une autre question?
Qu'est-ce que c'est une vie d'enfant pour toi?
Pour moi, la vie d'enfant, c'est comme les adultes, mais sauf qu'ils sont petits.
Est-ce que tu penses que tous les enfants, ils ont la même vie?
Non. Il y en a, ils ont le bras cassé. Il y en a, ils ont le bout du cœur. Mon copain, il a failli avoir un problème cardiaque parce qu'il courait trop. Et son frère, il s'appelle Moussa, il est plus grand que son autre frère Mohamed. Et il lui a dit, arrête de courir, sinon tu auras une crise cardiaque.
Julie Pagis et Wilfried Ligné sont les auteurs d'une enquête sociologique passionnante, L'enfance de l'ordre, menée pendant 2 ans dans 2 écoles élémentaires du nord-est parisien, relativement mixtes socialement. Y est décortiqué le rôle joué par les institutions qui socialisent les enfants sur la manière dont ils appréhendent le monde social, comment ils perçoivent les inégalités, les hiérarchies qui le structurent. Premier constat, les enfants, ce n'est absolument pas un groupe social homogène. L'enfance comme l'âge adulte est traversée par des rapports de pouvoir, de classe, de race, de genre, pour ne citer qu'eux, qui influent sur leur manière de penser et de se situer dans le monde. Dans leur vie, dans leur bouche, il y a très tôt, comme déjà là, la grammaire de la domination et la compétition.
C'est important ces institutions de l'enfance parce que elles sont porteuses effectivement d'une définition de l'enfance qui en fait est toujours particulière. Forcément, elles ne peuvent pas faire vivre simultanément toutes les possibilités qu'il y a d'être enfant. Mais si on se met du point de vue des enfants, ils vivent leur vie, alors très vite l'école arrive, mais une partie de leur vie n'est pas déterminée par l'école. Il y a une vie avant, il y a une vie à part, etc. Quand ils vont arriver dans l'espace scolaire, ils vont de fait être projetés comme étant plus ou moins proches, en fait, de ce qu'ils valorisaient là, en fait.
De la culture scolaire.
La culture scolaire, ce que Bourdieu appelait l'arbitraire culturel de l'école. C'est ça qui va faire que vous allez passer, en fait, d'une forme de vie, on pourrait dire, enfantine, à une position en fait dans l'espace des enfants qui est plus ou moins favorable. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'école, elle est censée être un lieu d'unification en fait, et elle l'est hein, d'ailleurs pour partie. Mais en réalité, ce qu'elle rend commun en fait, c'est un sens de ce que c'est que l'enfance qui est bien, y compris parmi les enfants eux-mêmes.
Ouais, pour donner un exemple par rapport à ce que tu dis, c'est vrai qu'on était un peu les premiers étonnés de se rendre compte du nombre d'enfants qui, par exemple, eux-mêmes avaient été mal classés sur l'échelle scolaire, par exemple des notes, et qui allaient nous dire qu'ils n'aimaient pas tel autre enfant parce qu'il était mauvais en classe, ou des enfants en surpoids qui allaient dire qu'ils en détestaient d'autres parce qu'ils étaient gros. Et donc ce côté, effectivement, haine de soi, ou en tout cas intériorisation des classements dominants que véhicule l'institution scolaire. Et effectivement, même si au collège, des formes de contre-culture scolaire permettront de se définir en contre, de pallier à cette violence symbolique de l'institution, quand même, les années, ça laisse cette intériorisation. J'étais aussi étonnée des enfants qui disaient « Ah, mais moi, je suis un peu bête ». Ou alors qui disaient qu'ils voteraient surtout pas pour eux comme délégués de classe. parce qu'ils étaient des mauvais élèves. Alors qu'on aurait pu imaginer que, j'en sais rien, qu'ils auraient pu voter pour eux parce qu'ils trouvaient qu'ils avaient une grande gueule, ils pourraient représenter les autres, etc. Mais non, il y avait vraiment ce truc-là très fort. Ouais.
Mais vous trouvez ça sur pas mal de choses. On connaît les études, par exemple, raciales là-dessus, sur les petits enfants noirs qui disent qu'ils préfèrent les poupées blanches. Bon. Mais juste pour ajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit Julie, c'est un point qui est important, c'est on voit bien aussi comment prendre en compte le point de vue enfantin, c'est pas sortir en fait de la question de la domination, c'est plutôt en prendre la mesure.
Le jour suivant, la maîtresse déclare à toute la classe: Adnan a raison. Ce musée est mal rangé. J'ai bien réfléchi. J'ai longuement cherché et j'ai trouvé.
En octobre 2023, à la faveur de la parution chez Shed Publishing du livre « Entrée en pédagogie antiraciste », coordonné par le syndicat Sud Éducation 93, une journée de rencontres et d'ateliers, baptisée « Nouvelle école », est organisée à Pantin, en Seine-Saint-Denis.
Celles qu'on ne voit pas ont été effacées. Les livres ne racontent pas leurs histoires. Et pourtant, elles ont beaucoup compté.
Houyem, professeur des écoles et autrice de livres jeunesse, y animait un atelier, le musée mal rangé, à destination des 6-12 ans.
Il y a de l'injustice dans cette affaire. Est-ce que ça vous dit qu'on discute un tout petit peu sur cette histoire que j'ai eu ? On peut prendre le temps de réfléchir un tout petit peu. À quoi ça vous fait penser ?
Penser au racisme à ce musée parce que ça se fait pas, il n'y avait aucun noir ni aucun métis, ça croquait à part une seule dans ce portrait.
Et aucune fille.
Tout à fait.
C'est une égalité entre les filles et les garçons.
Il n'y a pas de
sexisme.
C'est du sexisme. Tout à fait.
Du sexy quoi ?
Du sexe.
Sexisme. C'est ça ?
Oui.
C'est ça que tu veux dire. Toi ?
J'ai remarqué que la France est riche et je me suis intéressée à pourquoi elle était riche. Et en fait, je me suis aperçue qu'en fait, ils avaient tout volé aux Noirs, aux Métis, à l'Afrique, à la Guadeloupe, à la Martinique. Et du coup, ça se fait franchement pas. Même que parfois, quand les Noirs, ceux qui venaient des Antilles, ils refusaient de travailler, soit on leur enlevait leur enfant, soit on les tuait.
Tu es bien renseignée, toi. Bon, alors, s'il n'y a plus de prise de parole sur ce que j'ai écrit, parce que moi j'ai l'impression que vous êtes formidable, là, vous savez plein de choses, eh bien peut-être que je peux vous proposer une autre activité. J'ai préparé des feuilles pour vous et je me suis dit que peut-être vous auriez envie de dessiner et de montrer ce qui serait pour vous une personnalité qui, selon vous, est importante ou a été importante dans votre vie d'enfant. Quelqu'un que tu aurais envie de voir dans un musée. Oui, mais qui serait bien rangé maintenant. Ça y est. Et puis moi, j'écris. Qui est cette personne et pourquoi elle est importante pour toi. Et aussi, juste une chose. Ici, ce sont des cartes que j'ai achetées. J'ai acheté ça dans une librairie et ces cartes-là, elles présentent des femmes importantes de l'histoire.
Des femmes que des femmes.
Pas que des femmes, il me semble. Tu vois là, j'ai deux jeux de cartes. Là, c'est des personnages importants de l'histoire noire. Et puis, bien sûr, et ne partez pas sans goûter les enfants, hein, qui est derrière moi. Hein. Si vous voulez partir. Merci.
Je vais imaginer un personnage. Mmh. Merde, là, le premier qui est bleu, je me rappelle plus comment il s'appelle.
Et comment t'as eu tous ces livres ? C'est dans ta classe que tu les as ? C'est chez toi ?
Non, c'est ma maman.
C'est ta maman qui te les a mis, d'accord. Et toi, qu'est-ce qui t'intéresse dans toutes ces histoires-là ?
Moi, ça m'inspire un peu, ce qu'ils ont fait et tout. Du coup, je trouve ça assez inspirant.
T'as trouvé une carte qui t'intéresse, du coup ?
Ouais.
Harriet Tubman.
Harriet Tubman. Oh my God. Tu la connais?
Quand elle était petite, on l'a mis à l'esclavage.
Harriet Tubman est une militante des droits humains dont la mémoire est honorée le 10 mars aux États-Unis. Une esclave dans une plantation, Harriet Tubman n'accepte pas son statut, s'opposant fréquemment à ses maîtres et allant même jusqu'à les menacer. En 1849, elle parvient à s'échapper pour vivre libre en Pennsylvanie. Chose extraordinaire, elle décide de revenir l'année d'après sur la plantation.
Sauver les autres.
Où elle a vécu pour organiser la fuite d'autres esclaves. En pas moins de 13 expéditions entre le Maryland et le Pennsylvanie ou le Canada, elle en libère plus de 70, ce qui lui vaut le surnom de Moïse du peuple noir.
Moi, je considérais volontiers que c'est intéressant, politiquement, scientifiquement, de donner une voix aux enfants. Ça, c'est hyper important. Mais je ne crois pas que ça soit connecté autant qu'on ne le croit.
Wilfried Ligné.
Avec des perspectives d'émancipation et de liberté. Parce que quand on écoute ce que les enfants disent, il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la présence de la domination dans leur bouche. C'est souvent parce qu'en fait, ils ont entendu ça éventuellement dans leur espace intime, parce qu'il y a une espèce de relatif acceptation du fait que les enfants peuvent dire ça, y compris à l'école parfois. Même à la crèche chez les plus grands ou chez les enfants petits, humilier un enfant parce que culturellement il fait pas des choses légitimes, lui couper la parole tout le temps, ou parler mieux que lui, donc lui piquer toutes ces choses parce qu'on parle mieux que lui, ça sera pas forcément repris parce que on considère pas ça comme une forme de domination. Y compris si ça permet de manière patente, par exemple, qu'un petit garçon systématiquement s'impose à des petites filles, par exemple. Alors que la crèche est au courant que l'égalité homme-femme, il faut... Bon, et puis pareil sur les rapports de classe ou les rapports de race. Donc tout ça, c'est vrai que ça casse un peu l'idée enchantée de l'enfance, quoi. C'est sûr, en fait. Hein, c'est pas...
Pourquoi lui donner son nom de famille?
Comment tu dis son prénom?
Jean.
Jean? Il écrit Jean?
Oui.
D'accord. Et toi, c'est... Redis-moi ton prénom.
Élie.
Élie. Comment c'est écrit?
E-L-I-E. Sans accent.
D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Jean?
En fait, quand il était petit, tout le monde se moquait de lui parce qu'il avait la peau noire et parce qu'il n'y avait personne là-bas qui avait la peau noire.
Attends, je vais écrire ça. Quand il était petit, tout le monde se moquait de lui. Tout le monde se moquait de Jean. Oui?
Oui.
J'écris ça. Où ça? À l'école?
Oui, à l'école.
C'était
au
le
centre,
seul noir à l'école.
À toutes ses activités. Même ses amis se moquaient de lui.
C'était des amis.
Oui. Et il a décidé de montrer sa valeur. Il leur a montré, il s'est entraîné chez lui. Et au sport, en mathématiques, en français, toutes les matières, c'était le meilleur.
Ok, on écrit ça. Sa valeur.
Et là, tout le monde a reconnu sa valeur.
Tout le monde l'a enfin reconnu.
Oui.
Tout le monde.
Et maintenant, les Noirs, ils voulaient même venir dans la même école que lui.
C'est très bien, ça. Tu finis? J'écris Élie?
Oui.
On signe?
Le grand intérêt et la singularité de leur travail commun est que Julie Pagis et Wilfried Ligné identifient un phénomène de recyclage des injonctions éducatives, notamment domestiques et scolaires, que les enfants transposent lorsqu'ils doivent émettre des avis sur les métiers ou sur leurs camarades. Par exemple, « Patron d'usine, j'aime pas, la fumée, ça pue » ou « David, je l'aime pas parce qu'il écrit gros ». Ce modèle du recyclage symbolique informe d'une manière inédite les façons de penser enfantines, construites socialement donc, et dont on garde la trace adulte.
Alors on n'a pas enquêté dans les familles, mais en fait, quand même quand on part du point de vue enfantin, les familles sont là. On entend des fois les parents parler, et vous parliez, oui, nous on parle d'injonction. En fait, pour socialiser les enfants, les parents quotidiennement ne cessent de leur dire « brosse-toi les dents, coiffe-toi, c'est pas beau sinon, touche pas à ça, c'est sale ». Et donc, en fait, ces injonctions domestiques, familiales sur les jeunes enfants, ce qui est ressorti, c'est qu'elles portent beaucoup sur le corps, l'hygiène. et donc le maintien et l'hygiène des corps. Et en fait, là où on voit la force de ces injonctions parentales pour socialiser quotidiennement les enfants, c'est que finalement après, quand nous on leur demandait de nous parler de comment ils percevaient les différents métiers, par exemple, ou leurs amis, qu'ils aimaient, qu'ils n'aimaient pas, en fait, ils utilisaient constamment des arguments liés à l'hygiène. Je l'aime pas parce qu'il est sale, je l'aime pas parce qu'il a vomi en allant à la piscine. Donc au début, on était un peu étonnés, on se demandait s'ils avaient compris les questions. Et en fait, finalement, c'est comme ça, au fil de l'enquête et puis de la récurrence de l'importance des excréments, de la saleté des cheveux, des ongles qui sortaient, qu'on a pu peu à peu construire le modèle qu'on a appelé de recyclage symbolique, qui veut qu'en fait les enfants réutilisent des schèmes d'évaluation, de valorisation ou de dépréciation du monde, mais qui leur ont été appliqués par les parents dans le but en fait de leur éducation corporelle et hygiénique. Et eux l'utilisent, ces arguments finalement ont tellement été répétés, ont tellement été intériorisés comme étant des arguments légitimes qu'ils les transposent et les utilisent pour penser le monde.
Donc il y a l'école, la famille, enfin ce sont ces deux cadres-là institutionnels qui font que les enfants incorporent l'ordre social.
Alors il y en a d'autres, mais effectivement à l'âge où on les a rencontrés, à l'école primaire, les instances de socialisation, les agents socialisateurs, on dirait nous les adultes qui les socialisent, il y a évidemment la famille, la sphère domestique qui est centrale, l'école, et effectivement on n'a pas encore parlé des groupes de pères. Ces groupes de pères qu'on pourrait effectivement imaginer comme un peu... des institutions qui permettraient un peu une contre-culture enfantine, etc. Et en même temps, là où il ne faut pas être naïf sur leur autonomie, c'est que finalement, ce qui est les mots, les thèmes qui les préoccupent, etc., ne leur viennent pas de nulle part. Et ces groupes de pères sont souvent homogènes socialement et aussi en termes raciaux. Et notamment sur le genre, une préoccupation... importantes et centrales dans les groupes de pères sont liées aux déviances de genre, à la question de jouer son rôle de genre et des styles de féminité. Et là, ils peuvent être effectivement très durs, où toute déviance peut être rappelée à l'ordre et peut entraîner des exclusions, des différences entre groupes. Donc en tout cas, la question des styles de féminité, styles de masculinité et des déviances de genre nous a semblé une des questions qui était centrale dans les groupes de pairs et qu'après, ils pouvaient recycler pour nous parler des métiers ou de la politique.
Je peux rentrer? Je vous dérange?
Ah non, pas beaucoup.
Ils sont bons là.
Popcorn, t'en veux?
Qu'est-ce que vous faites?
Ah, on joue à des jeux. En fait, il faut s'occuper de ça, c'est une petite chose. Il faut s'en occuper.
Elle s'appelle Pou.
Une patate.
Oups, c'est une crotte normalement.
Non, c'est une crotte normalement.
Ah, mais...
C'est trop la honte. Donc, il est dans sa maison. On peut l'habiller, le maquiller,
on peut le faire dormir.
Regarde, il peut parler.
Écoutez, attends. Il peut parler.
Bonjour, je m'appelle Pou.
Attends. Normalement, il doit répéter après, c'est comme un petit perroquet.
Je peux vous poser une petite question avant de vous laisser tranquille jouer?
Oui, bien sûr. Wow.
Ce que je me dis est un sujet dont on n'a jamais parlé, toutes les fois on s'est vu, c'était de l'amitié. Alors qu'en fait, moi je vous ai toujours vues toutes les deux,
ouais.
Les copines du même immeuble.
Ouais.
Du coup, vous savez ce que c'est l'amitié?
Moi j'ai des amis au collège, ma meilleure amie elle est dans ma classe, elle a rencontré d'autres personnes et après elle m'a oubliée et elle essaye de m'incruster, sauf que les autres, elles me rejettent. Alors, je joue avec d'autres amis. Mais genre, voilà.
C'est dur, non ?
Elles font que de rester ensemble, de se coiffer. Et voilà. Elles se coiffent au collège. Hein. Non, c'est normal, tout le monde se coiffe au collège. Il y a des choses principales au collège. Tu ramènes tout le temps de la bouffe, surtout des pipasses. Beaucoup de pipasses. Tu coiffes. Tout le temps. Et tu joues au foot avec des déchets.
tout le temps. Et comment est-ce que vous pourriez parler, vous, de votre amitié à toutes les deux?
On fait pas d'histoire.
Ah non, ça c'est clair, jamais. On rentre de l'école, on se dit, je vais voir Naya. On se dit, je vais voir Mia.
Oui, c'est tout de suite.
Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Avoir une amie.
Une personne de confiance.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. On peut compter sur elle.
Une personne que t'as choisie, quoi.
Ouais.
Et est-ce que, Naya, toi, c'est ta première année au collège, donc tu te souviens quand même assez bien de l'école primaire et en même temps tu découvres le collège.
Oui.
Est-ce que t'as l'impression que la question de l'amour, d'avoir une amoureuse ou un amoureux, ça prend plus de place au collège?
Oui, largement. En primaire, je connaissais des couples, tout ça, mais au collège, presque tout le collège est en couple et tout, du coup, voilà.
Qu'est-ce que t'en penses?
Bah, qu'on est trop jeune.
Ah, tu penses que vous êtes trop jeune?
Bah oui, non mais tu peux tomber amoureuse mais pas te mettre en couple. Je connais une fille depuis le CE1, elle est en couple.
Et comment vous expliquez que arrivé au collège, tout le monde veut être un peu en couple?
Bah tout le monde veut avoir une relation parce qu'ils se trouvent grands. Alors qu'ils sont petits en fait. Ils sont petits.
Parfois c'est pour être populaire au collège.
Pour être
populaire. Mais ça marche pas.
Ouais. Ça marche pas.
Et les couples que toi tu vois, Naya, c'est surtout un garçon, une fille?
Moi, j'ai déjà une amoureuse en vrai, dans la vie.
Et ça voulait dire quoi pour toi, Mia, avoir une amoureuse?
C'est que moi j'étais amoureuse d'elle et c'était réciproque. J'allais souvent chez elle, souvent chez moi, on se voyait très souvent.
Moi, dans mon école, il y avait une personne qui était lesbienne. Elles étaient vraiment en couple, elles s'aimaient vraiment beaucoup. Elles étaient meilleures amies au début, sauf qu'après elles ont commencé à éprouver des sentiments envers l'une l'autre. Et puis un jour j'étais en train de traîner avec elles, vu que c'est mes amies, au parc. Et puis ensuite il y a un garçon qui nous parle le chemin, qui nous dit ça va, la la la, il nous bloque comme ça, il nous dit ça va. Moi j'ai dit bah oui, pousse-toi. Et puis ensuite il reste sur notre chemin, nous on change de direction. Et puis ensuite il dit de toute manière vous les lesbiennes vous savez rien faire, vous servez à rien, vous êtes juste ici pour être plus nombreux sur terre et tout. Et du coup après ma copine elle a tout raconté à l'autre. Mais c'est pas pour autant qu'elles se sont quittées l'une ou l'autre. Ouais, voilà.
Bonjour, je m'appelle Ali. Enfin, je suis né à côté de Saint-Denis. J'ai grandi à Saint-Denis, j'étudie à Saint-Denis, j'ai 14 ans. J'étudie au collège Elsa Triolet en classe de 3e.
Et est-ce que tu accepterais de parler de ton rapport, peut-être à l'école ou au collège?
C'est vrai qu'en ce moment, je vais de moins en moins au collège, donc... Enfin, c'est pas forcément passionnant d'aller à l'école, mais ça finit toujours par servir plus tard.
Qu'est-ce qui te passionne pas?
À rester assis sur une chaise comme ça pendant des heures. J'écoute, j'écris, je copie, je fais mes exercices, mais c'est ennuyant. En primaire, ça se passait plutôt bien, j'étais content d'aller à l'école, mais dès que je suis rentré en collège, pas trop.
Et quand ça se passait mal, il se passait quoi? Des exclusions de classe, tu veux dire?
Ouais.
Et tu te souviens un peu des motifs?
Ouais. Une bagarre ou deux, je pense. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'insolence. J'arrivais pas à tenir en place, certes, je bougeais, je levais, je sautais, enfin, je sautais entre guillemets partout dans la classe, mais... Pourquoi j'étais insolent? Ah, je sais pas, c'était mon caractère qui était fait comme ça. J'ai commencé au collège Fabien. Ça s'est plutôt bien passé dans la classe en soi. Mais je sais pas, je me rappelle plus de ce que j'avais fait. Je me suis pris un conseil de discipline, un premier. Je me rappelle d'avoir changé un mois, je crois. Et après, c'est reparti en vrac. Et un deuxième conseil de discipline, l'exclusion temporaire. J'ai été au collège Barbus. Premier conseil de discipline à Barbus, accumulation de rapports au professeur, justement pour insolence, beaucoup pour insolence. Une exclusion temporaire de 2 semaines, pareil, j'ai recommencé. Deuxième conseil de discipline, exclusion définitive de l'établissement Et au jour, là, j'ai commencé en troisième au collège Elsa Triolet. Et depuis, ça se passe bien. Jusque maintenant, ça fait quoi, 3 mois depuis la rentrée de septembre, et que ça se passe plutôt correctement.
Toi, tu penses que de changer d'établissement, d'avoir fait plusieurs établissements, ça t'a aidé, ça a été utile?
Alors, aidé peut-être pas, utile peut-être pas, parce que j'ai quand même perdu une bonne scolarité de ma quatrième. Barbus, je savais que ça allait être catastrophique dès le premier jour de la rentrée. Et j'ai vu des têtes que j'avais déjà vues en primaire, avec qui j'ai eu des problèmes. Je me suis dit, je sens cette année elle va pas durer longtemps. Je suis resté 4 mois, il me semble, à Barbus, et direct exclusion temporaire.
Donc il y a aussi un peu parfois des problèmes d'entente avec tes camarades, c'est ça?
Beaucoup, ouais. Beaucoup. Quasiment la moitié de mes rapports, c'était parce que c'est moi qui faisait ma loi, parce qu'il n'y a personne qui voulait la faire au collège. Mais c'était pour des trucs genre... c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup pour d'homophobie. J'étais victime d'homophobie énormément à Barbus. Tous les jours, c'était quotidien. Des insultes de PD dans les couloirs, tout et n'importe quoi, tout. Et à chaque fois, dès que je recevais une insulte, je me retournais, j'allais l'attraper par le col, je lui fais répéter ce que t'as dit. Pour essayer que ça cesse, pour essayer de leur changer de leur niveau. En tout cas, moi, c'était ma manière de réfléchir.
Donc tu l'es confronté en fait.
Ouais, c'est ça. J'avais pas peur de le faire en tout cas. Après, beaucoup de gens disent ça sans le penser. Mais c'est plutôt à cause de l'influence de leurs camarades. Enfin, c'est plutôt un truc en réunion quoi. C'est genre, ils en parlent avec leurs potes et tout. Enfin, devant les potes et tout. J'en croise plein dans la rue qui m'ont déjà tenu des propos homophobes au collège. Qui viennent me saluer dans la rue, qui me disent bonjour normalement, mais c'est genre au collège, quand il y a un pote à côté de lui et tout, je pense que c'est plutôt pour ça.
Est-ce que tu le qualifierais de harcèlement, ce que tu as vécu?
Je pense que c'est considéré comme de l'harcèlement. Donc on peut dire que ouais, j'ai vécu de l'harcèlement.
Et est-ce qu'il te semble avoir été entendu comme ça, comme victime de harcèlement?
Non. Non, du tout, pas une seconde.
Et t'en veux pas à l'école?
J'en veux, mais en même temps, j'en veux pas. Parce que même si on m'aurait considéré comme, ça aurait rien changé. Les surveillants étaient gentils, hein, mais j'allais pas les voir parce que je savais que ça servait à rien. J'allais plutôt voir Madame Borchia, ma CPE, qui elle, en tout cas, prenait ça au sérieux et qui allait à chaque fois essayer de prendre rendez-vous avec eux pour essayer de leur parler.
Et là, les adultes de l'établissement, est-ce qu'ils interviennent après pour dire, peut-être, je sais pas, qu'il faut faire de la prévention, qu'il faut parler un peu de questions de genre, d'homophobie, de sexisme? Est-ce que c'est pris en charge après un peu par les établissements?
Alors oui, c'est pris en charge. Il y avait, en troisième, il y a des cours de sexualité.
D'éducation
à la sexualité, pardon. Il y a aussi des interventions contre l'homophobie et plein de trucs comme ça, mais je pense que c'est vraiment pas ça qui aidera ces personnes à changer, parce que 3/4 du collège s'amusait à arracher les affiches, les drapeaux et tout.
Si c'était des initiatives qui viennent pas des adultes, mais des élèves eux-mêmes, est-ce que tu penses que ça changerait quelque chose?
Je pense.
Par exemple, toi tu dis, oui, certains d'entre eux, je suis allé les voir. Qu'est-ce que tu disais, tu te souviens?
Ouais. J'allais les attraper... J'essayais de savoir qui insultait dans le groupe, ils étaient en général 10, donc, et j'allais les voir devant les 10 au culot comme ça, répète ce que t'as dit, il y en a qui étaient plus grands que moi et tout, il y en a qui répétaient, je leur disais ça t'amuse de dire ça, qu'est-ce que ça te fait, tu pourras m'insulter autant que tu veux, ça changera pas quelque chose à moi, à ma façon d'être.
Pourquoi t'es visé à ton avis?
Pourquoi je suis visé? Alors parce que la tenue de base des garçons, c'était jogging. Jogging, paire de baskets TN, casquette, dégradé. J'étais l'un des seuls garçons qui venait en jean, des baskets différentes, des cheveux longs. Et du coup, je pense que c'est surtout à cause de ma tenue vestimentaire. Ils ont leur propre image. Dès qu'ils voient quelqu'un habillé comme ça, pour eux, c'est forcément un PD ou un truc comme ça.
Une vitrine qu'on prépare pour après le stage, c'est pour soutenir la Pride, la Happy Pride. On doit créer notre propre vitrine avec notre composition, nos couleurs, notre organisation,
et il faut montrer aussi un message par notre création. Stanislas de Marquette, 19 ans, terminale bac pro merchandising visuel. Nous sommes au lycée du premier film, Lyon 8e. C'est un lycée où on se développe déjà directement vers l'emploi de notre choix comme esthétique, communication visuelle et coiffure notamment. Merchandising visuel, c'est un peu comme... il faut faire donner l'envie au client de prendre ce produit en faisant des décorations sur les vitrines, les têtes de gondole et aussi même grâce aux affiches. Enfin, je suis assez créatif, donc ça me plaît.
Et est-ce que, si tu penses à un peu ta vie à l'école, depuis que tu es à l'école, quels mots te viennent à l'esprit ?
Bah, je pense directement aux devoirs qu'on doit se taper, ou à la cour de récréation, on s'amuse... Donc c'est là où les relations se développent. Et aussi, comme beaucoup... on doit se foutre des... Où les gens se moquent des personnes parce qu'ils aiment une telle personne ou parce qu'elle est différente ou...
Les moqueries entre...
J'ai oublié le mot.
Entre les élèves ?
Oui, voilà. Peut-être.
Et ça, à chaque moment de ta scolarité, t'as l'impression qu'il y a eu ces rapports un peu entre élèves durs ?
Oui.
Et toi, qu'est-ce que tu peux dire de ton enfance, par exemple ?
Eh ben, moi, je pense que j'ai un petit peu perdu, en vrai. Parce que j'ai voulu être trop sérieux, trop travailleur, et j'avais du mal à communiquer, je voulais faire tant de choses avec eux. J'ai choisi la mauvaise porte, en vrai. En primaire, j'avais une AESH qui m'accompagnait partout, dans tous mes cours.
AESH, est-ce que tu te souviens ce que ça veut dire ?
Plus vraiment.
Accompagnant des élèves en situation de handicap.
Et j'avais aussi des problèmes de discipline au début vers le CE2. J'étais très agité, je courais partout, j'étais bon en histoire, j'étais assez peu bon en maths. Et je disais des mots que je pensais pas. Je faisais souvent des bêtises et c'était pas forcément drôle. Mais quand j'étais à Mâcon en CE1, il y avait des halls pour faire du foot... qui très sombre, il y avait même plusieurs toiles d'araignées. Je prenais les toiles d'araignées, je les mettais sur le cou des filles. Et voilà.
Ça te fait quand même un peu sourire encore
aujourd'hui. Enfin, c'était pas forcément drôle, c'était plutôt stupide, même. Enfin, c'était un peu compliqué. Et c'est en CE2 que j'ai redoublé et que j'avais eu honte de moi-même pour avoir redoublé. Et c'est là que j'avais pris conscience que j'avais loupé un an pour rejoindre mes amis pour le bac. Parce que j'avais une habitude, je voulais garder l'habitude d'avoir ma classe. Et c'est à partir de la sixième que j'ai commencé à être trop sérieux, à vouloir être à l'heure tout le temps, être une heure en avance, peut-être 10 minutes, une heure. Mes camarades disaient, non mais Stan, ça fait pas de mal de louper, d'être en retard, d'être... profite. Et... je les ai pas écoutés. Et ils me détestaient pour ça. Et j'étais un petit peu seul, des fois.
Alors, initialement, vous avez travaillé sur l'école maternelle et notamment sur les rapports adultes-enfants à l'école maternelle.
Oui. Donc le grand résultat, si je puis dire, principal, hein, auquel je suis arrivé dans ces travaux, c'est de voir effectivement que dans les années 60-70, le rapport à l'enfant à l'école maternelle était relativement pluriel, en fait, c'est-à-dire qu'il y avait des finalités de préparation à l'école, mais il y avait aussi d'autres manières d'envisager la relation adulte-enfant.
Guilain Leroy, sociologue, auteur de « L'école maternelle de la performance enfantine ».
Ce qui se passe, si vous voulez, c'est que des années 80 à nos jours, pour le dire voilà un peu rapidement, il y a un retour finalement des objectifs scolaires, en fait, pour plein de raisons. Hein, voilà, à partir des années 80, on critique les approches libertaires des années 60-70. Il y a le chômage de masse. Et puis, je dirais aussi qu'à partir des années 90, en particulier, il y a une transformation des politiques publiques en général et puis des politiques d'éducation en particulier. Dans un sens qu'on peut qualifier un petit peu de néolibéral, bon, le concept est un petit peu massif, mais malgré tout, voilà, il y a quand même des valeurs venues de l'entreprise privée, des recherches de rentabilité, et tout ça amène finalement à ce que dans le monde de la petite enfance et dans l'école maternelle, bah en fait, on pose la question de finalement à quoi sert l'école maternelle, mais dans un sens vraiment assez rentabiliste, quoi. Et en gros, la réponse un peu politique implicite, c'est de dire, bah l'école maternelle, en fait, elle doit donner des résultats scolaires. Il faut faire des enfants, des élèves. Faut leur transmettre assez précocement des acquis en lecture, en maths, etc. Et donc, par exemple, des thématiques comme l'affectivité, comme le vivre ensemble, tout ça, ça va décliner à la fois des programmes et des pratiques aussi effectives. Voilà. Aujourd'hui, finalement, dans le contexte scolarisant, ces dimensions psychologiques, elles ont beaucoup décliné dans les instructions officielles. Elles ont aussi, du coup, par conséquent, beaucoup décliné dans les formations. Ça peut aboutir que dans les pratiques, les professeurs des écoles de maternelle, n'ayant pas été formés à l'importance, si je puis dire, de la prise en charge psychologique de l'enfant, mais simplement à l'injonction à en faire des élèves, on peut voir, c'est pas dans toutes les classes, mais j'ai eu l'occasion d'en observer des comme ça, des classes où voilà, il y a des situations, de mon point de vue, de maltraitance éducative, où il peut y avoir un stress très important en termes de production de résultats, où il faut être élève avec beaucoup de punitions, etc. C'est-à-dire finalement, tout ça a joué en faveur d'une sorte de normalisation, vous voyez, de l'école maternelle au sein du système éducatif. L'enfant idéal aujourd'hui, c'est un enfant qui est autonome dans son travail scolaire dès 3 ans, mais c'est aussi un enfant qui est autonome, par exemple, émotionnellement. Grosso modo, on n'apprécie pas trop qu'un enfant, il pleure quand on l'amène à l'école maternelle, qu'il souffre de la distance avec les personnes qui le nourrissent, effectivement, si je puis dire. Voilà, et puis il y a même des autonomies, par exemple, nouvelles, hein. On attend aussi que les enfants sachent, par exemple, s'essuyer tout seul aux toilettes, se laver les mains, etc. Voilà, donc ça, c'est l'enfant parfait un peu d'aujourd'hui. Il arrive à l'école maternelle, il est un peu clé en main, si je puis dire. Donc, moi, je trouve ça important de déconstruire, si on peut dire un peu, ces attentes contemporaines, parce qu'en fait, elles font peser, finalement, beaucoup de choses sur les enfants, sur les psychologies enfantines. Et puis, elle masque aussi, vous voyez, des choses comme le fait qu'on a besoin d'accompagnement, mais tout le monde, vous voyez, même les adultes. Ce que j'étudie aussi dans l'enfance, c'est peut-être aussi quelque part la violence, un peu l'âpreté de la société contemporaine à pas mal d'égards, vous voyez, qui me paraît parfois aller dans un sens de plus en plus dur sur certains aspects, mais on pourrait en parler longtemps.
Oui. Comme...
C'est qui fixe ce qu'on a le droit de faire et de pas faire? Qui décide?
Les parents. Les policiers. Oui, je sais. Dans toute la France, c'est Macron. Président de la République.
Ça veut dire quoi, président de la République?
En fait, président, c'est celui qui a que des droits, mais il a jamais pas le droit de faire des choses. Et République, c'est toute la France. Et ça m'intéresse quand on fait contre le président.
Les manifestations?
Oui, j'aime bien en manifestation, même si on est toujours bloqué. Et on a des drapeaux, on a des ballons.
Plaisir, je veux te présenter ma chérie.
Bonjour, est-ce que tu peux me dire comment tu t'appelles?
Pomme.
Pomme? Mmh. Ok, enchantée Pomme. Est-ce que tu peux me dire pour quel âge t'as?
5 ans.
Est-ce que c'est la première manifestation pour toi?
Non. Quand j'étais bébé, je suis allée plein de fois.
Ta première manif, c'était pour la marche pour le climat. Elle avait 8 mois.
Paris. 2023, manifestation contre la réforme des retraites.
La culture de la grève est importante. Des petits. La culture de la manif et de la grève, ça se fait des petits. Hein.
J'ai même fait une pancarte, la retraite à 6 ans.
C'est pas forcément la retraite, hein, même si nous on se mobilise pour ça. Enfin, c'est ça qui a été l'élément déclencheur. Nous, on estime que là, c'est plus que la réforme des retraites, c'est genre quelle société on veut. Et voilà, pour toutes ces choses. Donc, on a vu le passage en force du gouvernement, donc on veut nous imposer le SNU, on veut nous militariser, on veut nous mettre au pas, on va fermer des lycées professionnels, on va fermer des classes.
Comme toujours, hein, les jeunes ont toujours été méprisés, que ce soit en mai 68 ou toujours hein, en 2020, 2018. Et je pense que c'est important que le gouvernement comprenne que les jeunes font avancer les choses.
Sur la pancarte de ma petite sœur écrit « La retraite des papillons ».
Est-ce que vous avez déjà entendu le mot politique ?
J'ai déjà entendu, mais je ne sais pas ce que ça veut dire.
Est-ce que vous avez déjà entendu le mot politique ?
Oh ben, police. C'est comme police.
Ismaël, toi, t'as déjà entendu le mot politique ?
Non. Poli ?
Politique. Un homme politique ou une femme politique ? Non.
Pourquoi on fait ça ?
Non, c'est pas grave.
On a enquêté pendant 2 ans dans 2 écoles primaires de l'Est parisien.
Julie Pagis.
Et la deuxième année, c'était la campagne présidentielle de 2012. Et donc, on avait prévu de les interroger, notamment en amont. On a fait passer des petits questionnaires, puis après, on a fait des entretiens avec eux pour essayer de saisir ce qu'ils percevaient, comment ils se représentaient, les hommes, les femmes politiques, est-ce que ça les intéressait ou non. Et donc, la première réponse, le premier niveau de réponse, c'est qu'effectivement, ils étaient un peu déçus. Qu'on parle plus des amoureux, ça ils aimaient bien, les copains, les copines, etc. Des choses très quotidiennes qui rejoignent leurs intérêts. Et donc, bon, quand on arrivait un peu avec nos questions politiques, on voyait bien que c'était un sujet qui est d'ailleurs construit comme un sujet pour adultes, donc et qui du coup, de fait, était lointain pour eux et que certains, donc clairement, nous disaient que ça les saoulait. Néanmoins, après, avec le côté, la grande médiatisation des campagnes présidentielles, au fur et à mesure de l'année, ils avaient énormément de choses à nous dire.
Vous savez qui c'est le président de la République ?
Oui, c'est Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron.
C'est le macaron.
Et ça sert à quoi ?
Bah oui, de nous protéger.
Vas-y.
Il fait des lois, il décide des lois. Il est riche.
Il est quoi ?
Il garde de l'argent.
Ouais, je pense.
D'être un président, ça dure 4 ans.
Tu sais quand il a été élu ?
Il n'y a pas longtemps.
Pas trop longtemps ?
Non, il n'y a pas trop longtemps.
Mais je sais pas. Je l'ai jamais vu. On est quand même des enfants. On est nés après lui.
On va par exemple disqualifier des candidats qu'on a des raisons, on va dire, positionnelles de disqualifier. On est issu d'une famille, par exemple, de gauche. Donc on va disqualifier un candidat de droite. Mais pour le faire, on va pas forcément dire des choses qui intéressent la politique directement parce qu'on les maîtrise pas. On va pas dire « j'aime pas du tout ce qu'il nous dit sur la répartition » ou « c'est pas un égalitaire » ou ça. On va dire un truc du type...
On va dire Sarkozy, il est nul, il sait même pas apprendre par cœur 2 phrases de son discours. Donc là, on voit le recyclage symbolique depuis des schèmes scolaires qu'ils appliquent à la sphère politique. Parce que c'est vrai, pour prolonger ce que disait Wilfried, ce qu'on a vu, c'est que les enfants, à cet âge-là, aiment ou aiment pas avant de savoir pourquoi, en fait, les hommes et les femmes politiques. Ils vont, pour beaucoup d'entre eux, dire « Ah bah oui, lui je l'aime ou lui je l'aime pas, ou mon camp ». Ils vont se situer dans un camp, ils vont dire « Bah moi j'aime la gauche et j'aime pas la droite ». Ce qui était un peu plus, vu l'Est parisien où on était, c'était plus ça la tendance. Alors selon les âges, selon les biais sociaux, ça différencie. Mais donc ils aiment avant de savoir pourquoi. Et effectivement, les manières quand même de se repérer, alors ça va être, donc là j'ai dit le scolaire, mais beaucoup, beau, moche. Ah, je l'aime pas parce qu'il est trop moche. Il a les... T'as vu la coupe qu'il a, on dirait Homer. Il disait ça de Hollande, je crois. Ou les autres qui avaient les cheveux gris. Celui qui a les dents jaunes. Donc, en fait, là aussi, on était un peu étonnés au début. Mais une fois qu'on a mis en place ce modèle du recyclage symbolique, on se rend compte que bah, c'est leur moyen de, les moyens de penser et de classer, de dévaloriser aussi des hommes et des femmes politiques.
Je sélectionne... Quand j'étais enfant, je sélectionnais les candidats par leur visage. Je pense, enfin, comme mes camarades de classe à cette époque-là, on jugeait les personnages pas par leur programme, mais par leur visage, l'apparence qui est... Parce qu'on connaissait rien aux idées, tout ça, on s'en fichait un petit peu. On jugeait uniquement le visage. Hein. C'est tout.
Et donc, il fallait être quoi, beau
Oui, bien coiffé, pas trop vieux.
Et donc, est-ce que tu te souviens de quel candidat, quand t'étais petit, avait...
Pas de jugement. François Fillon.
Avec son visage.
Oui.
C'était le choix.
Et surtout les sourcils qui nous a beaucoup fait rire. Et, enfin, beaucoup ont choisi Aimé Macron parce qu'il était plus jeune. Et moi, je disais un petit peu trop jeune, je disais.
Mais malgré tout, c'est ça qui est intéressant. Et là, on voit de l'autonomie enfantine pour le coup. À force d'entendre, si vous faites le schéma complet, à force d'entendre des choses sur la propreté, le maintien du corps, etc., on va être appliqué, par exemple, le schéma dents jaunes, j'aime pas, à des candidats qui parfois, en fait, sont les candidats des parents, en fait.
Ouais, ou alors, dans le même sens, sur Jean-Luc Mélenchon, c'était vraiment marrant parce qu'effectivement, on était dans des quartiers où il y avait des enfants dont les parents, ils connaissaient les goûts de leurs parents, ils savaient que leurs parents votaient Jean-Luc Mélenchon. Mais eux, ils disaient, mais moi, je l'aime pas, par contre, parce qu'il coupe la parole aux journalistes. Donc là, on entend très bien les adultes qui disent aux enfants de pas couper la parole aux scolaires, qui avaient peur de lui parce qu'il parlait beaucoup trop fort, il criait. Je me rappelle d'une qui disait, j'ai toujours l'impression qu'il va me taper quand je le vois à la télé. Et alors même qu'effectivement, elle était d'une famille, donc elle, voilà, presque elle nous disait, bon, je sais qu'il est bien, mais quand même. Et là, on voyait un peu ses forces en tension, effectivement.
Ce qui est aussi très intéressant dans cette partie, donc sur le rapport des enfants aux politiques, c'est leur proposer donc d'être dans une position d'édicter des lois. Et les enfants ont quand même des réflexes très répressifs. Quoi. Ils veulent absolument, ils veulent interdire beaucoup. On pourrait se dire, bon, est-ce que les enfants sont réac? Mais vous l'expliquez autrement.
Je me rappelle d'un numéro, je ne sais plus quelle revue, qui disait « Est-ce que c'est dans le cerveau que les enfants seraient de droite ?» Il y a eu toute cette idée que les enfants seraient de droite. Et en fait, comme ils... Enfin, c'est plutôt l'inverse qui serait impossible. Comme ils sont constamment sanctionnés, et ils le savent très bien, s'ils ne se conforment pas à l'ordre familial ou à l'ordre scolaire, évidemment que quand on leur demande ce qu'ils feraient, ce qu'ils pensent de l'ordre politique, avoir l'idée d'une subversion de cet ordre, eux, leur statut d'enfant, pour le coup, là, on peut revenir à leur statut de dominé et au fait que, en gros, ils savent qu'ils s'exposent à des sanctions s'ils ne se conforment pas à l'ordre familial et l'ordre scolaire. Par exemple, ils savent qu'on va les sanctionner ils jettent des papiers ou des canettes par terre, et donc après, ils nous racontent que ce qu'il ferait comme loi, c'est qu'il mettrait en prison tous ceux qui jettent des canettes, etc., et qu'il les emprisonnerait longtemps, effectivement. Donc ce côté-là, ce côté répressif, n'est que l'expression, en fait, de ce à quoi ils sont soumis quotidiennement, en fait.
Et donc en manif, c'était quand ta première manif?
Oula. Je crois que c'était en 5e.
Ali.
Et après, j'en ai fait plein. J'ai fait les. La Gay Pride, mais c'est pas forcément une manif.
Et pourquoi t'y vas? Qu'est-ce que.
Ah bon, mais revendication, comme tout le monde. Après, certes, c'est un peu bizarre que des personnes en 5e ont des revendications, mais ouais, ça existe. Ça me passionne. On peut dire ça comme ça.
Et est-ce que tu peux m'en dire plus sur ces revendications?
Alors, mes revendications sont contre le racisme. J'ai beaucoup fait de manifs aussi contre le racisme, contre la hausse des prix, ce qui a concerné beaucoup une bonne partie des habitants de Saint-Denis, la précarité durant le Covid l'homophobie. C'est une de mes principales revendications. Le sexisme aussi. Et l'inégalité homme-femme, ouais, aussi beaucoup.
Et tu te sens concernée ? Concernée comment ?
Bah déjà l'homophobie, bah, l'avoir vécu quoi. Le sexisme, avoir des proches, avoir même des potes à moi, des filles qui se sont fait accoster quand j'étais avec. Très jeune, par des fois de vieilles personnes.
Et toi, tu dirais que tu viens de quel milieu social ?
Moi, mes parents ne travaillent pas. Ma mère est en situation de handicap et mon père aussi. Donc les deux ne travaillent pas.
Tu dirais que c'est tes parents qui t'ont transmis quoi, une culture politique, par exemple ?
Non. Non, pas du tout. Mes parents, ils sont quasiment pas politisés. Mais c'est juste qu'ils m'ont laissé, enfin, qu'ils me laissent, moi, justement, m'ouvrir les portes pour que je puisse avoir une meilleure vision des choses qu'eux. Parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'être comme ça. Enfin, de connaître les mêmes choses que moi, je connais.
Est-ce que tu as réfléchi déjà à la place des mineurs ou des moins de 18 ans ou les enfants dans la société ?
Je pense que les mineurs, ils sont délaissés. Je pense. Hein. En tout cas, on en parle très, 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 très peu.
Bah là, par exemple, dans l'actualité récente, on en a parlé un petit peu. C'était ouais. Après la mort de Naël.
Ouais.
Parce qu'il était mineur
ouais.
Et parce que beaucoup de mineurs se sont mobilisés aussi.
Ah oui, beaucoup, beaucoup de mineurs parce que c'est enfin, ça a touché énormément de personnes. Moi, j'ai été justement à la manifestation en hommage. J'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup, beaucoup de jeunes issus de cité de Nanterre. Avant la mort de Naël, t'es pas du tout politisé. Et au jour d'aujourd'hui, ben, ils ont un peu... Beaucoup plus de jeunes se sont intéressés en tout cas à la politique. Moi, si demain je deviens maire de Saint-Denis, j'irai avec un bloc-notes toquer à toutes les portes des habitants, recevoir les habitants, ce que fait très rarement le maire, aller aux écoles primaires, écouter les professeurs. Il y a beaucoup d'écoles qui sont en précarité à Saint-Denis, beaucoup d'écoles qui sont entre guillemets délaissées. Je pense qu'il faudrait s'occuper des jeunes en premier à Saint-Denis. Aller les écouter parce qu'on les écoute pas assez. Moi, j'ai jamais vu le maire de Saint-Denis dans un quartier aller discuter avec des jeunes. On l'a vu une fois, il s'est planté entouré de police municipale avec un gilet pare-balles dans une cité comme si c'était. Il y avait des attaques terroristes partout dans le quartier. Et moi, je trouve ça choquant pour un maire.
Merci à la classe de CE1 de l'école Tourtille, à Mia, Naël, Naya, Wilfried Ligné, Julie Pagis, aux enfants de l'atelier de Houyem, Ali, Stanislas et Guylain Leroy. Un grand merci également aux quatre fantastiques profs, Caroline Séchant, Karim Betayeb, Houyem Rebaï et Renaud Guy. Prise de son, Fabien Gosset, Lucien Lefebvre et Pierrick Charles. Mixage, Bruno Mourlan. Stagiaire, Agathe Veil. Chargée de programme, Marivonne Bolivier et Anaï Morales. Coordination, Johanna Bedeau. Les enfants peuvent-ils parler ? Entrer dans le rang. Un documentaire de Clémence Alzar, réalisé par Anne Fleury. Vous pouvez le réécouter sur franceculture.fr et retrouver le podcast sur l'appli Radio France.